18h dans le studio Kalangou, monsieur dame, bonsoir, bienvenue dans ce journal au micro Nefis Adamou Sirfo. Voici les titres de ce journal. Ouverture ce matin à Addis Abeba en Éthiopie du 28e sommet de l'Union africaine. Le président de la République Issifou Mahamadou y prend part. La semaine dernière, lors de la deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité du Luptako-Gourma à Niamey, il a été décidé de la création d'une force multinationale de sécurisation dénommée FMS-LG, à suivre la réaction du président du Conseil des éleveurs Nord-Tillabéri. Les otages d'Arlita de 2011 avaient été libérés contre d'importantes sommes d'argent. Une information donnée par le magazine d'investigation de France 2 envoyé spécial. Vous entendrez une analyse d'un spécialiste sur les questions sécuritaires. En partie magazine, nous parlerons du processus de renouvellement du bureau de l'Union des étudiants nigériens de l'Université Abdou Moumouni. Le président de la République Issifou Mahamadou prend part ce lundi à l'ouverture à Addis Abeba en Éthiopie du 28e sommet de l'Union africaine sous le thème « Trier pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Plusieurs chefs d'État et de gouvernement des 54 pays de l'Union africaine prennent part à cette réunion. Détail avec Rahila Tsoumana.
La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à 11h ce matin. Auparavant, une séance à huis clos a déjà eu lieu hier entre la trentaine de chefs d'État et de gouvernement qui composent l'organisation pour examiner plusieurs dossiers au menu de cette rencontre. Au cours de leur séance de travail qui durera 2 jours, il sera question, entre autres sujets de préoccupation, l'élection du nouveau président de la commission dont 5 candidats sont en lice pour succéder à la sud-africaine Nkosazana Zuma. Les chefs d'État et de gouvernement se pencheront sur le retour du Royaume du Maroc au sein de l'organisation panafricaine. Après 30 ans d'absence par ailleurs, le sommet examinera aussi les crises qui affectent le continent, dont la crise libyenne, l'exaction des groupes djihadistes au Mali, en Somalie et au Nigeria. Déjà en début d'après-midi, le président guinéen Alpha Condé est élu à la tête de l'Union africaine en remplacement d'Idriss Déby, président en exercice. Et enfin, à l'issue des travaux, les présidents des 8 commissions spécialisées seront aussi élus.
Et c'est le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, qui est élu président de la Commission de l'Union africaine, où il remplace la sud-africaine Nkosazana Zuma. La libération des otages d'Arlita contre des sommes d'importantes d'argent, une enquête de l'émission de France 2 envoyée spéciale diffusée la semaine dernière, a fait ressortir que l'argent était au centre de cette libération et a mis en conflit plusieurs réseaux, chacun réclamant sa quote-part. Pourquoi l'argent a-t-il une si grande importance? C'est la question posée au consultant sur les questions sécuritaires Mokhtar Roumour. Il est basé à Bruxelles, en Belgique.
L'argent occupe une place très importante parce qu'on parle justement de guerre contre les terroristes, entre guillemets, avec tout ce que ça implique en géopolitique, notamment au Sahel, entre la France, ex-puissance coloniale, et ses colonies au Sahel. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on suit l'argent, toutes les rançons qui ont été versées depuis les années 2000 à 2017, donc si vous remontez, ça vous renvoie directement au chef d'Ansar al-Din, donc... Iyad Garadi, qui a été un négociateur avant tout des services de renseignement occidentaux, notamment français, allemand et algérien, avant de se tourner et de devenir un terroriste recherché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de là, le business des otages occidentaux, notamment la plupart des humanitaires ou des touristes, est devenu très lucratif. Il y a beaucoup d'officines, donc des agences de renseignement extérieures ou des multinationales qui sont impliquées.
Vous venez là d'entendre le consultant Mokhtar Roumour, basé en Belgique. Il a été joint au téléphone par Hamado Moumouni. Niamey a abrité la semaine dernière la deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma ALG qui a accouché d'une mutualisation des moyens d'intervention pour la création d'une force multinationale de sécurisation dénommée FMS-ALG afin de relever les défis sécuritaires, notamment le terrorisme dans l'espace Liptako-Gourma. Quelle est l'importance de cette force? Tarnan Foudey Ahmed s'est entretenu avec Diallo Boubacar, président du Conseil des éleveurs Nord-Tilabéri.
Ces forces mixtes pour sécuriser en tout cas le long de nos frontières Niger, Mali et Burkina. Je crois que ce n'est pas la solution. Si Barkhane était incapable, la MISMA est incapable, je ne pense pas si les trois forces Niger, Mali, Burkina peuvent gérer la chose. C'est les communautés qui sont en train de faire la guerre. C'est les communautés qui sont avec ces djihadistes-là. Le Moujao, c'était la même chose. Et Ansari, c'est la même chose. Le Front de Libération du Massina, c'est la même chose. Aujourd'hui, le mouvement de Mala Ibrahim, de Djibo, de Burkina, c'est la même chose. Mais c'est des communautés. Revenons sur la table du dialogue. Revenons sur le vrai problème. Le problème du Sahel et du Gourma, ce n'est pas une question de force. On va créer 1000 forces. Le problème va rester tant que les communautés là et nos États ne s'entendent pas. Tant qu'il y a ces problèmes, je vous assure, on va étouffer. Ils vont faire quelques accords. Mais dans 2 ans, 3 ans, vous allez revoir les mêmes problèmes. Et ça ne va pas finir parce que le vrai problème, on ne le pose pas.
Le président américain Donald Trump a signé vendredi dernier un décret interdisant l'accès aux États-Unis d'Amérique aux citoyens de plusieurs pays, dont la Libye, le Soudan ou encore la Somalie, et ce sur 3 mois. Cette décision est lourde de conséquences et anticonstitutionnelle, selon Maître Bachir Hamadou, doctorant en droit international à l'Université de Toulon en France. Maître Bachir, joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Elle est inconstitutionnelle au regard même de la Constitution américaine. Vous savez, il y a le 5e amendement dans cette Constitution qui encadre de manière stricte les abus gouvernementaux et les menaces en fait contre les personnes, surtout de la sécurité intérieure. Et à tout point de vue, il y a aussi une série de lois qui s'appelle Immigration and National Act qui encadre depuis 1965 les différentes lois d'immigration, les immigrés contre lesquels parfois des motivations justement fondées sur la race, fondées sur le sexe ou la religion. À l'époque, il y avait des quotas qui étaient attribués en fonction des nationalités. Et cette série de lois qui, de 1965 qui s'appelait l'Immigration and National Act avait eu pour but d'abolir en fait toute cette série de lois discriminatoires. Donc, on pourrait pas dire que c'est raciste, mais plutôt c'est discriminatoire parce que, à tout point de vue, ils se fondent sur la religion de ces personnes-là.
Ce sont là des explications de Maître Bachir Hamadou, doctorant en droit international à l'Université de Toulon en France. L'État du Niger a réagi sur le contentieux qu'il oppose avec la société Africar. Le secrétaire général du gouvernement, Gandou Zakara, a, à travers une conférence de presse tenue samedi dernier, fait une mise au point autour des 6 points qui sont régulièrement évoqués dans cette affaire. Gungu Mahamad Dantani s'est entretenu ce matin par téléphone avec Seydou Djibril. Il est journaliste analyste indépendant qui donne son avis sur cette affaire.
C'est tout à fait regrettable qu'un État qui est en principe la somme de diverses compétences se fasse avoir dans une transaction aussi simple que celle-ci, puisque visiblement il y a eu résiliation unilatérale d'une convention de la part de notre gouvernement. Or, il y a un principe élémentaire qui régit tout type de convention, c'est que à chaque fois qu'on résilie un contrat, il y a des procédures, des règles à respecter. Lesquelles règles, apparemment, dans le cas du contentieux avec Africar, n'ont pas été respectées. Le gouvernement ferait mieux de mener avec beaucoup de froideur une investigation pour soutenir réellement les responsabilités des uns et des autres par rapport à cette stupide affaire judiciaire.
Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier, 124 jeunes, dont des scolaires qui s'éclataient dans une boîte de nuit, ont été interpellés par des éléments de la police d'Agadez sur instruction du procureur de la République près du tribunal de grande instance. Le procureur Amadou Moussa Zaki explique les raisons de cette opération au micro de Moussa Maman.
C'est une opération visant à sensibiliser les gens et à sécuriser et à attirer l'attention des parents de la mauvaise conduite des enfants dans cette ville d'Agadez. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, nous avons enregistré un certain nombre de vols, des boutiques cassées, des motos volées et même des véhicules de l'État volés dans cette région d'Agadez. Donc les autorités ne peuvent pas rester les bras croisés. Donc c'est pourquoi nous avons mobilisé toutes les forces pour pouvoir intervenir sur des endroits censés accueillir les malfrats. Nous avons agi et nous avons pu trouver sur les lieux, il n'y a que des mineurs et des mineurs scolarisés.
Dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Niger, la direction de la police judiciaire de Niamey procède depuis quelques jours à des interpellations et auditions de certains hauts cadres de l'État et autres opérateurs économiques impliqués dans diverses affaires de malversation. Une lueur d'espoir pour véritablement lutter contre la corruption, estime Mamman Wada, secrétaire général de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section Transparency International.
Je pense que c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Il faut que les Nigériens aient la tête froide, comme on dit, en ce sens que celui qui est en situation d'infraction par rapport à la corruption doit répondre de ses actes devant la justice. Nous avons, de par les lois, accepté que le juge est le seul gardien des droits et des libertés et en même temps, c'est lui qui peut dire qu'on est en infraction ou on n'est pas en infraction. Je pense qu'il faut accepter d'aller dans ce sens-là. Il ne faut pas remettre en selle les sentiments et dire « un tel, il est de mon parti, il est de mon village, c'est parce qu'il est ceci et parce qu'il est cela qu'on lui en veut. » Non, c'est une infraction. L'individu, on le soupçonne d'avoir fait main basse sur les biens publics. Je pense qu'il doit répondre de ses actes. Il n'y a pas de retard. C'est un travail millénaire. La corruption est aussi vieille que le monde. Et pour la combattre, il faut beaucoup de temps. Ce n'est pas une affaire de génération. Ce n'est pas une affaire d'individu. C'est une affaire de tout le monde et sur plusieurs générations. Je pense que nous allons commencer. Ceux qui vont venir après nous vont continuer. S'ils ne continuent pas, ils seront coupables de n'avoir pas posé des actes pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Ils seront coupables de n'avoir pas lutté pour que le mal s'éloigne.
Propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base à Sinaseb, par la voix de son premier responsable, accuse certains cadres du ministère de l'enseignement primaire d'acharnement pour avoir opéré des coupures sur les salaires de certains enseignants pour faire de grève. Moukaila Halidou, secrétaire général du Sinaseb au micro de Asumana China.
D'abord, les premières retenues pour faire de grève ont concerné spécifiquement les enseignants contractuels parce qu'aujourd'hui, il faut leur dire que la plupart de ces enseignants contractuels, pour ne pas dire que les enseignants contractuels se trouvent être des militants du SINASEB. Mais la surprise, c'est que sur les salaires du mois de janvier, nous avions également remarqué que c'est seulement les membres du bureau exécutif national avec certains responsables des régions qui ont connu des coupures, selon eux, pour faire de grève sur ces salaires-là. Mais il se trouve qu'il ne s'agit pas là de coupures pour faire de grève parce que si c'est des coupures pour faire de grève, d'abord ça doit concerner l'ensemble des organisations en tout cas impliquées, ça doit concerner tous les enseignants qui ont observé en tout cas ces arrêts de travail là, mais mieux c'est que il faut dire qu'en janvier il n'y a pas eu de mouvement, donc on ne peut pas savoir pourquoi ils vont opérer des coupures à la fin du mois de janvier pour faire de grève. L'autre aspect c'est que c'est des retenues que nous avons constatées qui vont de 50 000 à 75 000 francs. Dans ces conditions on ne peut pas nous parler de coupures pour faire de grève, donc pour nous aujourd'hui c'est un acharnement tel qu'ils ont l'habitude, de le faire contre notre organisation, contre le SINASEB et contre ses militants.
Le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire, Ashana Hima, que nous avons contacté, a indiqué que ces coupures concernent le mois d'octobre où seul le SINASEB avait observé un mouvement de grève. En bref, football, deux rencontres ont sanctionné la fin de la 9e journée des éliminatoires du championnat national, la première division. C'était hier dimanche ici à Niamey. Au terme de ces deux rencontres, l'Union sportive de la gendarmerie nationale a battu l'Olympique Football Club par 2-0. L'AS FAN et l'AS Nigelec se sont séparés par un match nul, 1-1. La 10e journée de ces éliminatoires débutera vendredi prochain. À présent, la partie magazine de cette édition, le processus électoral en vue du renouvellement du bureau de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey se poursuit dans de bonnes conditions. Maman Nassirou, président de la table de séance, explique comment se déroulent ces élections au micro de Moutari Mahamadou.
Le processus électoral à l'ONU est institué pratiquement il y a 5 ans d'ici là. Et un processus régi par un certain nombre de principes ou des textes de l'organisation. Il est défini sous trois axes, particulièrement trois phases. La première phase, après le dépôt du bilan du comité exécutif, l'on consistera à valider d'abord le bilan du comité exécutif avant de convoquer proprement dit le corps électoral. Le corps électoral est d'abord régi de manière contradictoire quant à son organisation. Elle consiste, après la réception des candidatures, de procéder à des assemblées générales portant non seulement celle de la présentation des candidatures pour édifier les militants, mais aussi et surtout celle d'une assemblée générale portant celle des appréciations objectives. Donc des appréciations dites ou à l'image des critiques que les militants vont porter à l'égard de tous les différents candidats. Ensuite, il y a une dernière assemblée générale dite d'autocritique ou l'autodéfense permettant aux candidats de répondre aux greffes qui leur ont été reprochées lors de l'Assemblée générale et de la critique. Après avoir évacué toutes ces différentes assemblées générales, la table des sciences se réserve un délai de 72 heures pour valider les candidatures avant d'ouvrir la mobilisation qui est échelonnée sur une durée de 5 jours avant le jour du scrutin. Actuellement, on a évacué les trois phases des assemblées générales. On a, dans les délais de 72 heures qui nous est imparti pour valider, on a que la journée de demain pour valider les candidatures. Les élections sont prévues pour la date du 6 février 2017.
Ici s'achève cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.